9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bien le bonjour camarade auditeur, Maître Serran est ravi de vous retrouver avec un peu de retard. Alors cette semaine, mon cher Philippe, oui. J'aurais pu vous parler du coronavirus et du racisme anti-chinois. Il ne fait pas bon être asiatique en ce moment, quand je pense qu'il n'y a pas si longtemps, dans ce pays, la personne mal aimée, c'était le barbu avec sa jellaba musulman terroriste, va. Et là, il suffit d'un virus pour que la haine passe du barbu à l'asiatique. Quand un journal, comme le Courrier Picard, pour ne pas le citer, s'autorise à titrer alerte jaune, c'est que manifestement, dans ce pays, le racisme, c'est dans l'ADN. En tout cas, tant que le virus se propage, nous, musulmans, on peut être tranquilles. Alors, sauf si t'es un musulman asiatique avec une gêne là-bas, ouais. Mais là, voilà, je peux rien faire pour toi. Donc, je disais à mon cher Philippe que je voulais vous parler du coronavirus et puis, après avoir terminé, il y a deux jours, mes rendez-vous au cabinet, j'allume la télé pour voir un peu quand même ce qui se passe dans le monde. Et alors là, je vais faire une imitation, vous me dites si vous reconnaissez.
Non.
Oui, j'ai le droit de mal parler de l'islam, ça c'est ma liberté. Vous avez trouvé qui c'était ?
Ah ouais, non.
Zineb El Razoui. Eh oui, je la vois disserter sur une certaine Mila. Oui, cette jeune fille a le droit de critiquer l'islam. Laissez-la tranquille. En plus, moi, je suis Zineb El Razoui. Bon, d'accord. Il passe aussi un extrait de l'intervention d'un type qui s'appelle Abdelazekri, alors le délégué général du Conseil français du culte musulman, pas n'importe qui le type. Et il dit, elle l'a cherché, elle assume, qui sème le vent récolte la tempête. Al-Shaitan, mais qu'est-ce qu'elle a pu dire pour énerver Abdallah ? Je vais regarder sur Internet l'intervention de cette demoiselle.
Mila.
Voilà, et vous pouvez la trouver, c'est encore sur Internet, et je tombe sur la vidéo de cette jeune fille. Ah quand même, ouais, c'est pas beau, c'est même vulgaire, mais cette vulgarité n'est probablement que le reflet de la personnalité de cette jeune fille. Il suffit que j'observe ton look, ma chère Mila. Alors, t'as les cheveux violets. Je suis sûr que c'est pas ta couleur naturelle. T'as un anneau dans le nez, comme la vache qui rit. T'as des sourcils chelous. Je vois bien que tu souffres et que ta déclaration débile n'est que la manifestation de cette souffrance. Allez, laissez tranquille cette gamine. À cause de vous, elle passe du stade de jeune fille débile au stade de pauvre victime. Vous aurez toujours le mauvais rôle. Les gars, Al-Shaitan, ressaisissez vous. Allez, ne vous mettez pas au niveau de cette gamine. Tiens, je n'hésiterai pas, Mila, tout à l'heure, à la mosquée, à demander à Dieu de t'apporter un peu d'ana, tranquillité, d'apaisement, tu vois. Le musulman est bon. Ce qu'il faut, c'est que j'arrête, en fait, de parler d'elle. Ça lui fait juste de la pub. Et ouais. Je vais m'arrêter pas plus tard que maintenant et inviter vous, auditeurs, à appeler le 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui a des cheveux blancs, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Ah non, j'ai les cheveux mauves. Parce que vous les voyez
c'est
pas.
Vous
ah ouais, c'est mauve là.
Ils sont mauves.
Ils sont mauves.
Bon.
Bon. Pardon pour le retard ce matin, on recommencera plus, Maître Serran. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Maître Serran ?
Je suis arrivé à quelle heure ?
Hein ?
J'arrive à quelle heure en règle générale ?
Il est arrivé hier.
J'allais dire à minima une heure avant. Bon.
Ça tombe bien parce que vous aviez des sujets que vous vouliez évoquer avec nous ce matin.
Ouais,
on n'est pas assez de temps pour les évoquer. Vous pourrez donc poser toutes vos questions tout à l'heure. On parlera quand même rapidement de l'expulsion des locataires pour faire suite à un cas que vous traitez en ce moment. Je vous rappelle le numéro du standard de Beurre FM si vous voulez poser vos questions juridiques à Maître Serran. Vous nous appelez au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Et Maître Serran, qui est là avec nous comme tous les vendredis, vous poserez vos questions en direct à Maître Serran dans un instant au 01 53 48 3000. Maître Serran, alors, comment est-ce qu'on peut expulser un locataire ? Ça prend combien de temps et finalement, quand il abuse, quels sont les moyens qu'on a à notre disposition ?
Alors, quand vous êtes le propriétaire, ça prend toujours beaucoup trop de temps. On avait évoqué ce sujet il y a quelques temps, mais du côté du propriétaire, du côté du locataire, comment est-ce qu'il peut se maintenir ? Mais quand vous êtes le propriétaire et... On évoquait tout à l'heure hors antenne un cas d'une pauvre femme d'un certain âge donc qui avait investi son argent en se disant comme ça, moi plus tard, en dehors de ma petite retraite, j'aurai au moins le loyer de mon appartement. Quand on voit les difficultés dans lesquelles elle se trouve, un locataire indélicat qui paye pas, un locataire qui détruit son logement, et donc on en est au stade d'un état d'insalubrité, mais créé par le locataire, lâché par l'agence immobilière qui gère son bien, je peux vous assurer que on regrette ensuite toute sa vie l'achat du bien. Alors ça commence comment ? À partir du moment où votre locataire ne règle pas son loyer, alors en dehors peut-être de vous rapprocher de lui par téléphone ou d'aller le voir. En dehors de ça, sur l'aspect purement juridique, il faut inviter un huissier de justice a procédé à la signification d'un document qui s'appelle un commandement de payer. Ce document va, comme on dit en droit, viser la clause résolutoire. C'est-à-dire, ce document dit, écoutez, si dans un délai de 2 mois, vous n'avez pas réglé le loyer, le contrat est terminé. Si dans les 2 mois, l'intéressé continue de ne pas régler, vous êtes autorisé donc à l'assigner devant un tribunal. Alors le tribunal, auparavant, c'était le tribunal d'instance. Le nom a changé, on parle de juge des contentieux et de la protection auprès du tribunal judiciaire. C'est une assignation en référé, c'est-à-dire c'est une procédure, je mets des gros guillemets, d'urgence. Donc vous appelez le tribunal, il va vous donner une date. Et si par extraordinaire le locataire fait preuve d'un peu de bonne foi, votre affaire peut être jugée au premier rendez-vous. Souvent, le locataire, lors du premier rendez-vous, il vient avec un petit papier pour dire « j'ai demandé l'aide juridictionnelle ». L'aide juridictionnelle, en tout cas en région parisienne, vous l'obtenez dans un délai de 3, 4 ou 5 mois, ce qui signifie déjà que c'est un laps de temps qui est perdu quand vous êtes le propriétaire. Quand vous avez la grande chance, après des renvois successifs, encore une fois, quand on a affaire à des locataires de mauvaise foi, donc après X renvois, quand vous avez la chance d'être entendu par le magistrat et que le magistrat rend sa décision, le parcours du combattant n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'un juge peut dire « Ok, on va expulser l'intéressé, vous devez retourner voir l'huissier de justice. Il va à nouveau signifier la décision avec un commandement de quitter les lieux. » Et le locataire indélicat a 2 mois pour pouvoir quitter les lieux. Si au bout de 2 mois, l'intéressé n'a pas quitté les lieux, vous aurez la possibilité de recourir, comme on dit, à la force publique. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous allez être amené à saisir le préfet. Il n'y a que le préfet qui peut autoriser les services de police à venir manu militari vous mettre dehors. Alors, je ne vous cache pas que les préfets n'aiment pas beaucoup ça. Intervenir comme ça pour exécuter une décision de justice, même si ça peut sembler curieux, pour peu que votre locataire soit une personne d'un certain âge, pour peu que votre locataire soit une personne un peu fragile, une femme seule avec des enfants, je peux vous assurer qu'il n'y a pas un préfet qui va prendre le risque de. Donc, votre locataire va rester sur place. La seule possibilité que vous avez, si le préfet dit au bout de 2 mois, ben non, moi je vais pas autoriser la police à intervenir, c'est de saisir ensuite une nouvelle juridiction. C'est le tribunal administratif qui est le seul à pouvoir, entre guillemets, vous indemniser, en règle générale, à hauteur de du loyer impayé. Mais vous imaginez le truc, c'est-à-dire que vous avez un locataire indélicat, faut aller voir un avocat, faut aller voir un huissier de justice, et ça coûte des sous, et c'est vrai que ça coûte cher, et il faut vous mettre en tête, si le type veut absolument se maintenir, qu'il peut encore gratter 1 an et demi, 2 ans, si ce n'est plus, parce que le juge que vous allez aller voir, peut lui accorder des délais supplémentaires. C'est-à-dire, s'il considère que le type, en faisant un effort, peut-être qu'il va pouvoir vous payer, il peut le maintenir dans les lieux, et puis vous allez devoir, entre guillemets, le supporter. Et puis, si demain, il ne paye pas son loyer, normalement, l'expulsion est automatique. Mais quand je dis automatique, ça veut dire, encore une fois, vous allez voir l'huissier, ensuite, il y a ce délai de 2 mois, ensuite, c'est le préfet. Donc, c'est vrai que ça pollue la vie des propriétaires, parce qu'il faut quand même comprendre, et c'est ça qui est terrible, que de nombreux propriétaires, la grande majorité des propriétaires, sont pas des institutionnels, sont pas des services HLM, ce sont pas des grandes banques, des grandes compagnies d'assurance, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire, c'est une vie d'économie, et quand vous êtes le propriétaire et que le propriétaire finit par déposer un dossier de surendettement parce que vous avez bien compris qu'on ne vous paye pas votre loyer, mais les charges continuent de courir. On ne vous paye pas votre loyer, mais la taxe d'habitation foncière continue de courir. Donc on a parfois, comme cette femme qui est venue voir, mais qui est aujourd'hui dans une situation d'une extrême fragilité, on a parfois des personnes en qualité de propriétaires qui sont dans des situations extrêmement compliqué à cause d'un locataire indélicat.
Et alors, pour les loyers, comment ça se passe? Est-ce que ça veut dire que vous vous asseyez dessus? si le locataire est insolvable.
Bah, c'est exactement ça, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prononce l'expulsion, on tombe à un œuf. C'est-à-dire que vous allez demander à un huissier d'exécuter. Ouais. Si l'huissier va regarder sur les comptes bancaires, il n'y a rien. Si l'huissier constate que l'intéressé ne travaille pas, malheureusement, vous allez vous asseoir sur les loyers. Mais on va encore plus loin. Mais ça existe depuis un certain nombre d'années. On a parfois des propriétaires qui nous disent, maître, essayez de voir avec le locataire et de négocier le montant pour qu'il puisse sortir de chez moi. C'est-à-dire que le type, il vous doit déjà X mois de loyer, et en plus, il faut lui rajouter un petit montant pour simplement lui dire, quitte les lieux. Donc, c'est toute la difficulté. Après, vous voyez, on a parfois des clients qui, entre guillemets, dérapent un peu et qui essaient de régler ça, justement, manu militari. Mmh. Bien évidemment, je ne le conseille pas, parce qu'en plus d'un locataire qui ne vous paiera pas, vous aurez un locataire qui va se retourner contre vous et un procureur de la République, donc qui vous poursuivra. Donc, il y aura de l'argent perdu au civil, mais vous serez de toute manière et de facto condamné au pénal. Donc, c'est facile à dire, mais il faut quand même essayer de contenir ses nerfs. Et c'est sincèrement très compliqué quand vous avez l'impression que le type, ou la femme, peu importe, ou la famille, est de très mauvaise foi. Et j'allais presque dire, essaie de vous narguer. Je le redis, il y a des vies qui sont brisées à cause de locataires indélicats. Maintenant, bien évidemment, il y a des circonstances de la vie où il y a des accidents de la vie qui font que tous les locataires ne sont pas indélicats. Mais je peux vous assurer que la proportion est importante. Et ils ont pour eux... Alors moi, avocat, on défend des propriétaires et des locataires. Évidemment, parfois ça nous arrange. Mais le locataire indélicat a pour lui la loi. C'est-à-dire que la loi est faite de telle sorte qu'on va chercher à le protéger au détriment du propriétaire. Alors peut-être qu'en se disant le propriétaire est plus riche, il est plus aisé, il est plus tranquille, mais le locataire indélicat, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas besoin d'être de mauvaise foi, il suffit juste d'appliquer les textes en la matière et vous allez pouvoir bénéficier de délais extrêmement longs.
Bien, nous avons Othman de Saint-Maurice, maître Serrin, au 01 53 48 3000. Othman, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Oui. Messieurs, bonjour maître.
Bonjour Othman.
Bonjour. Alors, je me permets de vous appeler pour avoir eu un renseignement. C'est-à-dire que j'ai une amie qui a un handicap, en situation d'handicap. Et justement, je voudrais poser la question par rapport à la mise en place de salles de bain PMR par les HLM. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une obligation des HLM pour mettre en place une salle de bain personne à mobilité réduite?
Alors, il y a en principe, comme dirait l'autre, donc à partir du moment où... alors, on parle quoi, de la personne qui a subi son handicap après, ou de la personne qui est déjà handicapée au moment de prendre le bail?
Cette amie, elle est déjà handicapée, elle a fait une demande à un bailleur social pour avoir une salle de bain MDPH, et le bailleur a refusé étonnamment par rapport à sa situation. Enfin, il renvoie pas à sa situation, il renvoie à la situation où son mari s'est un peu, si vous voulez, emporté avec les services de cet HLM.
Alors ça, c'est pas un argument juridique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement on est dans cette situation et que le bailleur doit quand même faire les travaux nécessaires pour permettre à l'intéressé de pouvoir accéder à son bien. Alors pareil, vous savez, il y a travaux et travaux. C'est-à-dire que s'il s'agit de tout révolutionner et de entre guillemets d'agrandir toutes les entrées et autres, bien évidemment. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais en règle générale, les bailleurs, entre guillemets, jouent le jeu. Maintenant, l'argument que vous invoquez, c'est pas un argument juridique. C'est-à-dire que si le conjoint de cette femme s'est emporté, j'imagine qu'on a dû lui faire pousser des cornes. C'est toujours compliqué avec les bailleurs sociaux d'obtenir quelque chose. On peut pas, sur cette base-là, dire en gros, mais monsieur, vous êtes énervé, donc je vais rien faire. C'est-à-dire que si il a ou il aurait été virulent, violent, ce qu'ils veulent, il y a des procédure pour ça, il n'y a rien qui interdit s'il le souhaite de poursuivre ce monsieur, mais on ne peut pas, entre guillemets, lui en vouloir ou se venger en disant s'il est comme ça, on ferme le dossier et on ne traitera pas la situation.
Nous, maître, ce qu'on a fait, on s'est rapproché du tribunal d'instance pour faire une conciliation. C'est-à-dire qu'on les a amenés à un conciliateur de la mairie en question qui gère ça. Et donc là, il y aura une rencontre.
C'est prévu pour quand, ça?
Le mois prochain. la fin du mois prochain.
Ouais, alors c'est vrai que y a toujours un timing qui est très souvent incompatible avec une situation d'urgence, mais ça devrait ou ça, enfin en principe, encore une fois, avec l'effort de la partie adverse, pouvoir se résoudre à ce stade-là. Mais je le redis, même si ce monsieur s'est emporté, je vais même aller plus loin. Imaginons même qu'il ait été violent physiquement. Je ne peux pas, moi, administration, prendre ça en considération pour me retirer de mon obligation de. Donc, vous voyez, donc après, il y a des poursuites s'il le souhaite. Mais ce n'est pas un argument, même dans le cadre de cette conciliation, pour dire, ouais, mais son mari, il est trop énervé ou il nous a bousculé. Non, ça ne peut pas être un argument. Ça peut être un moyen de poursuite en parallèle, mais on ne peut pas invoquer ça pour dire, chère madame, au revoir, c'est terminé. Donc évidemment, cette conciliation, et puis si vous le souhaitez, en fonction du résultat qui sera rendu, n'hésitez pas éventuellement à nous rappeler. Mais bon, c'est déjà une bonne chose. Donc ça veut dire déjà que les parties, entre guillemets, peuvent discuter intelligemment et essayer de trouver un terrain d'entente. Donc c'est un préalable, c'est une bonne chose. Et puis je vous dis, en fonction du résultat de cette rencontre, si vous le souhaitez, et ce serait avec plaisir, n'hésitez pas à nous rappeler pour évoquer ça à l'antenne.
Entendu, maître. Ben, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous pour cet appel.
Merci, Othman.
Merci beaucoup.
Au revoir. On accueille Sarah au 01 53 48 3000. Sarah, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour. Merci beaucoup. Salam alaikum, maître.
Salam alhamdoulilah. Ça va, Sarah?
Ça va, alhamdoulilah.
Eh ben, alhamdoulilah.
Bon, ça, ah oui. Ça rappelle ou ça raccroche?
Oula, ah, le niveau.
Alors là, je suis au top.
Voilà, ouais, c'est ce que. Ouais, ouais,
ok. Je suis là.
Je suis là.
Bon, alors Sarah, quelle est votre question à Maître Serran?
Donc, moi, j'ai deux questions en fait. Hein. Donc, la première, c'est-à-dire qu'on s'est mariés avec mon mari, enfin mon ex, en Algérie. Et donc là, on va divorcer ici. Comment on va déclarer le divorce en Algérie? Et la deuxième chose. J'ai obtenu l'autorité parentale exclusive à moi. Je voulais faire les démarches administratives, c'est-à-dire passeport algérien pour les enfants. Sauf que monsieur a tous les 12 S. Enfin, vous voyez là, le document de circulation, là, le 12 S.
Ah, le S12?
Oui, voilà.
Ouais. Ça.
Donc, je voulais savoir comment ça se passe.
Ah, alors, même si vous êtes marié au pays, évidemment, vous pouvez divorcer sur le territoire français. Vous êtes tous les deux avec un titre sur le territoire français ou monsieur s'est marié, il est venu, c'est quoi l'histoire?
Non, tous les deux avec une carte.
Bon, d'accord. Enfin voilà, le domicile de conjugal depuis toujours est sur le territoire français. Donc vous pouvez évidemment divorcer ici, il y a pas de difficulté et la décision donc faudra la faire transcrire, donc vous serez officiellement divorcé et sur le territoire français et au pays, donc le problème ne se pose pas. Mais vous me dites que vous avez l'autorité parentale exclusive.
Oui.
Alors, pour nos auditeurs, on explique 30 secondes. L'autorité parentale exclusive, c'est que le magistrat considère que il y a que la mère qui va pouvoir s'occuper des enfants. Alors, on condamne quand même, alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais on condamne quand même le père à régler une pension alimentaire, mais le juge, pour des circonstances en règle générale assez graves ou exceptionnelles, considère que monsieur ne mérite pas de voir ses enfants, soit le week-end, soit pendant les vacances. Donc si ça vous a été accordé, effectivement, vous êtes la seule à pouvoir faire les démarches. Maintenant, la question qui consiste à me dire, alors quid des S12, c'est monsieur qui les a?
Oui.
Là, la difficulté, madame, est une difficulté importante parce que je sais que la situation s'est posée pour certains de mes clients et quand l'un des conjoints, souvent monsieur d'ailleurs, refuse de remettre les documents. J'ai des clients qui ont été au consulat, qui ont expliqué la situation et puis on a toujours la même réponse. Si vous n'avez pas ces documents, nous, on ne peut rien faire. D'ailleurs, ouais, quand on vous donne le S12, on vous dit, hein, faites attention, en gros, c'est un pour la vie, il ne faut pas le perdre. Donc, je suis toujours surpris d'entendre un truc pareil, puisque c'est un document qui sort d'une machine, donc c'est informatisé, j'ai du mal à comprendre ça. On vous le donne comme si qu'on vous disait, c'est votre vie que vous avez entre vos mains. Donc, Sarah, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Moi, je considère qu'à partir du moment où vous avez une décision qui vous attribue.
On peut pas avoir de duplicata, c'est
ben
ça.
Ben non, mais c'est ça qui est fou. Enfin, ouais. Enfin, c'est une bizarrerie. Je sais pas si c'est une bizarrerie spécifiquement algérienne, mais voilà, c'est là où on reconnaît l'Algérien, quoi. Toujours un peu compliqué. Avec la décision en principe, dans le meilleur des mondes, vous présentez ça en disant bon, bah c'est la seule qui est autorisée par un juge à pouvoir s'occuper de ses enfants et donc de gérer le côté administratif. Maintenant, connaissant les gens du consulat, effectivement, ils peuvent se braquer et dire, chère madame, tant qu'on n'a pas ça, bah là, c'est terminé, on peut rien faire. Et vous aurez juste un beau jugement et rien d'autre. Mais voilà, il n'y a pas de contrainte à l'égard d'une autorité étrangère. Et une ambassade, le consulat, bah c'est je peux pas forcer un État étranger à appliquer ma décision à la lettre. En tout cas, en règle générale, ça se règle avec un peu de bonne foi et d'intelligence. Mais là, honnêtement, cette histoire de S12, j'ai des gens qui ont été confrontés à ça. Et à part de temps en temps essayer de caresser le type du consulat dans le sens du poil, ça me semble difficile. Et j'ai pas d'exemple où les autorités consulaires auraient remis un nouveau document, un nouveau S12 au client. C'est vrai que on vous prévient dès le début, vous l'avez, faut pas le perdre. Donc je suis un peu inquiet, alors pas sur l'aspect juridique de ce qui se passe sur le territoire français, mais à l'égard des autorités algériennes, Sarah, en tout cas à ce stade-là, j'ai pas eu de personne ayant obtenu un nouveau document, franchement. Donc c'est vraiment le contact et la bonne foi aussi des autorités consulaires. Mais j'ai pas de conseils juridiques dans le sens comment les contraindre à vous donner.
Bien.
Ah, Sarah nous
on a perdu Sarah.
Ouais, elle est dégoûtée.
Bon, voilà, exactement. Merci, Sarah.
Ah, j'ai failli renverser.
Non, pas de cata.
Ah ouais, c'est fou, ça.
Oh, merci, Samir, qui nous a apporté gentiment un café. Ouais, Maître Sarah n'a failli le renverser, mais il a été fort, il s'est rattrapé. Hein, à double salto arrière. Tout à l'heure, à 10h, c'est l'imam Abdelali Mamoun qui sera là pour l'islam au présent.
Il va donc nous parler de son problème, de celui-là qu'on avait évoqué en antenne, non?
Maître Sarah, non. Franchement. Allez, dans un instant, si vous avez des questions à poser à Maître Serral, vous faites au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Maître Serran qui est avec nous. Maître Serran, je rappelle à tous ceux qui ne pourront pas passer ce matin, qui peuvent vous appeler sur votre téléphone cellulaire, Maître Serran.
06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Bien, Rachida nous appelle du nord de la France. Rachida, vous êtes la bienvenue sur Beurre FM.
Allô ?
Oui, Rachida, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Maître.
Bonjour Rachida.
Oui, bonjour, merci. Bah, bonne année, meilleurs vœux d'abord.
Oui, alors c'est vrai, on est encore dans le timing. Merci. Bonne année à vous et très bonne santé avant tout.
Oui, merci, c'est gentil. Bah, je vous appelle par rapport à mon mari. Franchement, on est marié le 28 juin 2018. Alors du coup, il est venu par visa, c'est pas un visa France, il est déjà rentré par visa France 2 fois ici en France. Et la troisième, c'était du Hollande, du Pays-Bas. Alors, on a fait le mariage ici à Valenciennes. On était à la préfecture pour demander pour sa régularisation. Il nous a dit non. On était à l'OFI et j'ai fait mon dossier et m'ont donné le numéro de dossier avec son numéro et tout. Alors, du coup, ils m'ont dit il faut qu'elle retourne au Maroc. Ouais. Maintenant, elle est au Maroc. J'ai reçu la visite du logement.
Ouais.
Voilà, et c'était bon, et jusqu'à maintenant, j'ai rien eu. Je me suis approchée d'un écrivain public ici à Valenciennes, c'est lui qui a contacté la préfecture, et ils ont dit qu'ils ont 4 mois de retard. Alors, depuis ce temps, j'ai
ouais, donc, c'est-à-dire que là, au moment où on se parle, monsieur est au pays.
Oui, il est au pays.
D'accord, bah voilà, bah c'est-à-dire qu'il a respecté la procédure. Alors, effectivement.
Oui, voilà. Il est au pays.
Quand on se marie comme ça, souvent, on vous demande pour respecter la procédure de regroupement familial, on demande à l'étranger de retourner au pays, de solliciter un visa long séjour. Enfin, et voilà.
Que le pays nous a dit qu'il faut qu'elle retourne, elle est retournée au pays.
Bon. Alors la difficulté, c'est que parfois, quand on essaie de respecter la loi, les textes, et de respecter ce que vous dit la préfecture, la France n'est pas toujours généreuse. Donc c'est vrai que quand on est là-bas, ils prennent largement le temps de traiter les dossiers. Maintenant, quand ils vous répondent, madame, qu'il y a un retard d'environ 4 mois, c'est pas un mensonge. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des services qui sont ultra saturés, il y a un problème de personnel, donc ils ont pris effectivement beaucoup de retard. Mais là, au moment où je vous parle, il n'y a pas de procédure particulière qui pourrait être faite pour accélérer l'avenue de monsieur sur le territoire français. La procédure telle que vous me l'aviez décrite, elle est conforme. Après, oui, évidemment, ça va jamais assez vite pour les clients, mais ce que je peux comprendre. Là, monsieur est retourné au pays il y a combien de temps?
Bah, elle est retournée depuis que, dès qu'on était à la OFI, il nous a dit qu'il faut qu'elle retourne au Maroc avant que je reçoive.
D'accord, mais au niveau de timing, ça fait combien de temps là?
J'ai reçu l'attestation des dépôts l'année dernière, le mois de février de l'année dernière, et la visite du logement, c'était le mois d'avril.
Alors, de l'année dernière. Ouais, alors c'est terrible ce que je vais vous dire, mais on est dans un timing normal.
Normal.
Voilà, Rachida. Donc c'est vrai qu'encore une fois, c'est toujours pénible.
C'est implicite, c'est pas parce que moi.
On n'est pas dans. Voilà, je comprends ce que vous dites. Non, on n'est pas dans ce raisonnement en disant est-ce qu'il s'agirait d'un refus implicite quand les services de l'OFI vous disent on a pris du retard. C'est vrai. Donc vous aurez la réponse. Alors je vais pas m'engager pour vous dire elle va être positive. Hein, je vais pas jusque là. Mais au niveau du traitement de dossier, il y a rien d'anormal. Vous voyez, je mets des gros guillemets parce que, encore une fois, on est en train de parler de situation familiale. On aimerait que l'administration française aille beaucoup plus vite. Mais voilà, on est habitué à ce genre de délai. Donc, il n'y a rien d'anormal et il n'y a pas lieu, au moment où on se parle, de s'inquiéter ou de dire, tiens, l'administration est un peu pénible. C'est long, c'est chiant, c'est pénible, mais la procédure telle que vous me l'avez décrite, elle est normale. Hein.
Merci beaucoup.
Donc, voilà, il va falloir faire preuve encore d'un peu de patience, Rachida.
Ah bah merci beaucoup, c'est gentil.
Merci pour votre appel, Rachida.
Merci, merci. Allez, bonne journée.
Gros bisous, Rachida.
Au revoir, merci. Au revoir.
On accueille Isabelle au 01 53 48 3000. Isabelle, bonjour et bienvenue.
Bonjour, meilleurs vœux et bonne année à l'équipe Beurre FM, je connais bien. Je vous appelle, voilà, j'ai ma fille qui paye un propriétaire pour son loyer. L'appartement, il est tout humide, je dis les grossis. Il ne fait pas les réparations et elle n'a pas les quittances de loyer.
Alors d'abord, à partir du moment où le loyer est réglé, les quittances doivent être remises évidemment par le propriétaire. Et donc, alors ce serait peut-être bien, ça a peut-être déjà été fait, mais de l'interpeller par écrit, de lui demander.
C'est nécessaire, elle a envoyé des lettres recommandées, il lui donne.
D'accord.
Pas.
Bon, et enfin, il n'y a pas d'explication, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas au téléphone, il ne dit rien, il trouve ça normal.
Il ne dit rien, puis il cherche des menaces à ma fille. En plus, elle est enceinte dans un appartement tout humide.
Alors, concernant l'humidité, évidemment, quand on est propriétaire, on doit mettre à disposition un appartement qui soit pas, entre guillemets, insalubre ou en voie d'insalubrité. Donc, quand c'est comme ça, d'abord, votre fille peut prévenir les services hygiène de la mairie du secteur.
D'accord.
Et en règle générale, je peux vous assurer qu'ils sont... alors d'aucuns diraient très performants, d'autres diraient très pénibles envers les propriétaires. Quand vous avez ce service-là sur le dos... Quand on est locataire, on est bien content. Quand vous êtes le propriétaire, on peut trouver ça très pénible. Donc c'est vrai que ça peut l'inciter à faire le nécessaire. Mais de deux choses l'une. Soit il y a des travaux qui d'isolation, mais...
Mais après, ce que je vous expliquais, il a plus vite fait les travaux dès qu'ils sont rentrés dans l'appartement, vous voyez.
Ah non, mais... Enfin, voilà. Je vais pas faire semblant. C'est-à-dire qu'on a quand même des propriétaires qui, entre guillemets, c'est comme une femme et son maquillage. Hein, quand on la revoit sans le maquillage, parfois on est déçu. N'est-ce pas, mon cher Philippe?
Elle est bizarre, votre.
Non, mais si, mais ça, enfin, on a tous.
Votre exemple ça, me laisse. Non
quoi? D'accord. Donc, alors, l'appartement, effectivement, en règle générale, le type se dépêche juste pour le louer. Et puis, après, ça dépend aussi beaucoup. Je le redis, ouais, si vous avez écouté.
Il a eu des problèmes déjà, hein. c'est pas la
ouais,
première.
Mais, enfin, voilà, moi, je considère qu'on peut avoir. Vous savez, on a parfois, parce qu'il a peut-être eu des problèmes avec un locataire pénible et autre. Vous voyez, je peux pas dire le propriétaire est toujours bien ou le locataire est toujours bien. Donc, d'accord. Je vais essayer de répondre, voilà, en fonction de ce que vous me dites. Votre fille devrait d'abord se rapprocher des services d'hygiène.
Elle a fait tout, elle a tout fait. Hein.
Ça, elle l'a fait.
Ouais, elle a fait toutes les démarches.
Ouais, donc j'imagine qu'il y a un rapport qui a dû être rendu. En principe, le propriétaire est informé par les services.
Eh ben, il n'a rien fait, hein. Il continue à l'embêter.
Mais alors après, paye, madame, il n'y a pas mille options. C'est-à-dire qu'après, il faut se retrouver devant la juridiction pour obliger le propriétaire donc à faire les travaux. Et en contrepartie, puisque l'appartement est quand même, peut-être quand même occupé, même si c'est pas les meilleures conditions du monde,
oui.
Demander à ce que y a qu'une partie du loyer qui puisse être réglée.
Voilà.
Souvent, le locataire dit je ne paye rien. Non, voilà. On peut pas ne rien payer, puisqu'on occupe quand même les lieux. Alors,
mais qui peut décider de ça, Maître Serra?
Ah, c'est le magistrat hein, qui décide. Ah, non, c'est pas
vous qui arbitrairement dites voilà.
Non, voilà, le propriétaire.
Payer les deux tiers de mon loyer,
voilà,
parce que
le locataire tout seul, voilà, peut pas dans son coin dire soit je paye pas, soit je paye qu'une partie. Non, c'est-à-dire que la règle étant que je dois payer le loyer indiqué jusqu'à ce qu'un magistrat se saisisse du dossier et considère qu'effectivement je ne peux pas occuper, on dit jouir en bon père de famille, c'est-à-dire je ne peux pas occuper les lieux tranquillement.
Et mais ça si... peut durer longtemps avec le magistrat, ça
vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, ça peut durer longtemps. Après, j'allais dire, tout dépend aussi de la bonne foi de l'autre. Vous savez, dans un procès, il y a toujours quelqu'un qui est ou qui serait de bonne foi et l'autre qui serait de mauvaise foi.
Merci.
Donc, en règle générale, mais même stratégiquement, le propriétaire peut faire en sorte, entre guillemets, de gagner du temps ou autre. Donc, ce serait pas sérieux de vous dire qu'à la première date d'audience, directement, le juge va retenir le dossier. Non,
oui,
il peut y avoir un renvoi.
De manière, maître, ils vont partir, ils cherchent à trois pièces, ça vaut mieux. Par contre, on peut avoir vos coordonnées s'ils veulent vous appeler.
Oui, bien sûr. Enfin, je les ai données tout à l'heure, mais je peux vous les donner si vous avez de quoi noter.
Oui.
Allez, 06 62
58
59 64.
Merci beaucoup, maître, c'est gentil. Ouais, parce que moi, j'ai été dans son appartement, moi, j'ai de l'arthrose. Alors, rien que déjà dans la cuisine, je grelottais. Je disais la peau, on saute et tout.
Ouais.
En plus, ils ont une douche. Mais c'est vraiment tout à refaire. Hein. Mm. Et en plus, ils ont des inondations, c'est pas normal, ça. Ça infiltre dans les caves et tout. Hein.
Bon, l'humidité, il faut agir, en tout cas. Isabelle, merci beaucoup pour votre appel.
Merci beaucoup. Un meilleur vœu à toute l'équipe.
Meilleur vœu, Isabelle.
Au revoir.
Tariq, est-ce qu'on a le temps d'accueillir Nadine qui nous appelle de Romainville?
Alors, il nous reste exactement 5 minutes.
5 minutes. En 5, Maître Serran le fait. Il est assez rapide pour
ça. Que pour ça, sinon le reste, je prends mon temps.
J'ai précisé.
Voilà. Il n'y a pas les mêmes problèmes pour moi. On ne va pas revenir là-dessus.
D'accord.
Non.
D'accord.
Non.
Je peux la faire, la vanne.
Non.
Je peux la faire.
Vas-y, tu es payé pour ça.
Il n'a pas les mêmes problèmes que l'autre intervenant.
Non.
On est d'accord. Ouais.
Et c'est lui qui a commencé.
Non, mais parce que c'est vrai, c'est lui qui l'a dit. Ça l'empêchait de. Ouais. C'était fané. Voilà, c'est terminé. C'est que des vieux souvenirs.
Elle est partie plus loin que moi.
Moi, personnellement, je n'y suis pour rien. Imam Abdelali, vous me connaissez.
Moi, je me suis arrêté, moi.
Non, mais c'est toi qui as lancé. Maître Serran, Nadine vous attend.
Oui, c'est vrai, Nadine.
Allô?
Bonjour Nadine.
Oui, bonjour Philix, bonjour maître. Moi je vais être rapide. Hein. Je suis arrivée en France du Maroc en tant qu'étudiante. Donc j'ai fait 5 ans d'études et j'ai été diplômée, j'ai trouvé du taf. Et après, le changement de statut, j'ai voulu changer mon permis en permis français.
Ouais.
Maintenant ma question c'est, j'ai déposé mon dossier à Paris. Ça fait un an que j'attends. Ils m'ont donné aucun document pour pouvoir conduire.
C'est-à-dire que vous avez demandé un changement de votre permis étranger en permis français.
Exactement.
D'accord. Oui. Bon, vous avez quand même, je sais pas, un document de l'administration qui dit réceptionne. Non, vous l'avez envoyé en recommandé à R.
Oui, ils ont reçu mon dossier.
D'accord. Il y a combien de temps?
2019. Donc ça fait un an, plus d'un an.
Ouais, allez-y.
En fait, à Paris, ils récupèrent pas votre permis original. Du coup, ils vous délivrent pas de documents. Et vous pouvez conduire avec votre permis pendant un an. Sauf que la procédure, a priori, elle dure un an et demi.
Bah oui, donc, non, mais c'est tout. Ouais, c'est toute la difficulté.
C'est ça. Vous êtes, enfin, vous n'avez pas le droit de conduire. Or, moi, mon travail, enfin, dans mon travail, j'ai besoin de la voiture. Je travaille dans les chantiers et c'est pas possible. Enfin, là, le boulot, ils me disent. Qui peuvent pas me garder parce que mon père.
Ah ouais, d'accord. Bon, alors la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de procédure exceptionnelle en fonction de la situation des uns et des autres. L'administration est parfois bête et méchante. Et ouais. Même si vous leur exposez ça, on va vous dire, bah écoutez, c'est pour nous entre guillemets un dossier comme un autre. Donc il y a, voilà, il y a pas de possibilité de les contraindre. Alors si ce n'est peut-être de les relancer ou alors d'appliquer la règle du droit administratif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je demande à une administration de procéder à tel ou tel acte et que cette dernière ne le fait pas dans un certain délai, et en règle générale en matière administrative c'est un délai de 4 mois, on peut passer outre et aller devant un tribunal. Mais même si vous allez en référé, c'est une procédure d'urgence devant le tribunal, vous voyez bien qu'il y a quand même un timing qui va être long et manifestement pour vous ça va poser difficulté.
Ouais.
Tout en sachant que vous savez, les compagnies d'assurance sont sans pitié, c'est-à-dire que si il vous arrive un accrochage ou quoi que ce soit, le principe d'une compagnie d'assurance, voilà, ils vont s'accrocher à ça pour dire mademoiselle, vous pouviez pas conduire à ce moment-là, donc on couvre pas. Donc c'est vrai que c'est embêtant et en même temps vous êtes en train de me dire que vous risquez de perdre votre emploi.
Absolument, j'ai écrit des lettres recommandées, je les ai contactés tous les jours pour tomber sur des conseillers différents, on sait jamais, mais je suis arrivée à aucune solution avec eux. Ils s'en foutent.
Ouais, bon, alors voilà, comme dire, je vais pas forcément utiliser ce terme-là, mais en tout cas, ils sont pas hyper motivés. Donc ça, je l'entends et je le comprends. Non, je vous dis après, sauf aller au contentieux, je saisis l'administration. Au bout de 4 mois, j'ai pas de retour, enfin pas un petit courrier, rien de tout ça. Je vais considérer que c'est ce qu'on appelle en droit un refus implicite, c'est-à-dire que je ne réponds pas, ça veut dire non. Ça m'autorise ou ça m'autoriserait à aller devant le tribunal administratif, mais dans ce cas-là, en référé, compte tenu de la situation d'urgence. Mais l'un dans l'autre, les 4 mois plus une procédure de référé, si ça va vite, ça fait 8 à 9 mois, quoi.
C'est ça, en fait.
Ah ouais, voilà, mais il n'y a pas d'autre option.
Quand je les appelle, ils me disent, on n'a même pas traité votre dossier. Et à chaque fois que je les
appelle, le délai
augmente.
Nadine, là, on arrive à la fin de l'émission. Ouais, moi, ce que je vous propose, c'est d'appeler Maître Serran après l'émission. Oui. Qui vous d'accord. Redonne le numéro, s'il vous plaît, on vous le donnera au standard. Hein. D'accord?
D'accord, merci beaucoup.
Merci Nadine, au revoir. Maître Serran, on vous retrouve vendredi.
Avec plaisir.
Et donc l'imam Abdelali Mamoun est là, il attend vos explications.
À propos de quoi?
Voilà, donc Maître Serran, à vendredi. L'islam au présent, c'est de 10h à 11h, ce Beurre FM.
Ouais, de la mauvaise...